Madame Amédée Fleurissoir, née Pétera, sœur cadette de Véronique Armand Dubois et de Marguerite de Baralioul, répondait au nom baroque d'Arnica. Philibert Pétera, botaniste assez célèbre sous le Second Empire, par ses malheurs conjugaux, avait dès sa jeunesse promis des noms de fleurs aux enfants qu'il pourrait avoir. Certains amis trouvèrent un peu particulier le nom de Véronique, dont il baptisa le premier. Mais lorsqu'au nom de Marguerite, il entendit insinuer qu'il en rabattait, cédait à l'opinion, rejoignait le banal, il résolut brusquement rebiffé de gratifier son troisième produit d'un nom si délibérément botanique qu'il fermerait le bec à tous les médisants. Peu après la naissance d'Arnica, Philibert, dont le caractère s'était aigri, se sépara d'avec sa femme, quitta la capitale et s'alla fixer à Pau. L'épouse s'attardait à Paris l'hiver, mais au premier beau jour regagnait Tarbes, sa ville natale, où elle recevait ses deux aînés dans une vieille maison de famille. Véronique et Marguerite mi-partissaient l'année entre Tarbes et Pau. Quant à la petite Arnica, méconsidérée par ses sœurs et par sa mère, un peu niaise il est vrai, et plus touchante que jolie, elle demeurait, été comme hiver, près du père. La plus grande joie de l'enfant était d'aller herboriser avec son père dans la campagne. Mais souvent le maniaque, cédant à son humeur chagrine, la plantait là, partait tout seul pour une énorme randonnée, rentrait fourbu, et sitôt après le repas, se fourrait au lit sans faire à sa fille l'aumône d'un sourire ou d'un mot. Il jouait de la flûte à ses heures de poésie, rabâchant insatiablement les mêmes airs. Le reste du temps, il dessinait de minutieux portraits de fleurs. Une vieille bonne, surnommée Réséda, qui s'occupait de la cuisine et du ménage, avait la garde de l'enfant. Elle lui enseigna le peu qu'elle connaissait elle-même. À ce régime, Arnica savait à peine lire à 10 ans. Le respect humain avertit enfin Philibert. Arnica entra en pension chez Madame Veuve Sémène, qui inculquait des rudiments à une douzaine de fillettes et à quelques très jeunes garçons. Arnica Pétera, sans défiance et sans défense, n'avait jamais imaginé jusqu'à ce jour que son nom pût porter à rire. Elle lut le jour de son entrée dans la pension la brusque révélation de son ridicule. Le flot de moquerie la courba comme une algue lente. Elle rougit, pâlit, pleura, et Madame Semaine, en punissant d'un coup toute la classe pour tenue indécente, eut l'art maladroit de charger aussitôt d'animosité un esclaffement d'abord sans malveillance. Longue, flasque, anémique, hébétée, Arnica restait les bras ballants au milieu de la petite classe, et quand Madame Semaine indiqua « Sur le troisième banc de gauche, Mademoiselle Pétera », la classe repartit de plus belle en dépit des admonestations. Pauvre Arnica, la vie n'apparaissait déjà plus devant elle que comme une morne avenue bordée de quolibets et d'avanies. Madame Semaine, heureusement, ne resta pas insensible à sa détresse, et bientôt la petite put trouver dans le giron de la veuve un abri. Volontiers Arnica s'attardait à la pension après les classes, plutôt que de ne point trouver son père au foyer. Madame Semaine avait une fille de 7 ans plus âgée qu'Arnica, un peu bossue, mais obligeante. Dans l'espoir de lui décrocher un mari, Madame Semaine recevait le dimanche soir et même organisait 2 fois l'an de petites matinées dominicales, avec récitations et sauteries. Y venaient par reconnaissance quelques-unes de ses anciennes élèves, escortées de leurs parents, et par désœuvrement quelques adolescents dépourvus et sans avenir. Arnica fut de toutes ces réunions, fleur sans éclat, discrète jusqu'à l'effacement, mais qui pourtant ne devait pas rester inaperçue. Lorsque, à 14 ans, Arnica perdit son père, Madame Semaine recueillit l'orpheline, que ses sœurs passablement plus âgées ne vinrent plus voir que rarement. C'est au cours d'une de ces courtes visites pourtant que Marguerite rencontra pour la première fois celui qui, 2 ans plus tard, devait devenir son mari, Julius de Baralioul, alors âgé de 28 ans, en villégiature chez son grand-père Robert de Baralioul, qui, comme nous l'avons dit précédemment, était venu s'établir aux environs de Pau peu après l'annexion du duché de Parme à la France. Le brillant mariage de Marguerite, au demeurant ces demoiselles Pétera n'étaient pas absolument sans fortune, faisait, aux yeux éblouis d'Arnica, sa sœur encore plus distante. Elle se doutait que jamais, penchée sur elle, un comte, un Julius, ne viendrait respirer son parfum. Elle enviait sa sœur enfin d'avoir pu s'évader de ce nom désobligeant, Pétera. Le nom de Marguerite était charmant, qu'il sonnait bien avec de Baralioul. Hélas, avec quel autre nom marié, celui d'Arnica ne resterait-il pas ridicule? Rebutée par le positif, son âme inéclose et froissée essayait de la poésie. Elle portait, à 16 ans, des deux côtés de son blême visage, ses tombantes boucles que l'on nommait des repentirs, et ses yeux bleus rêveurs s'étonnaient près de ses cheveux noirs. Sa voix sans timbre n'était point rude, elle lisait des vers et s'évertuait à en écrire. Elle tenait pour poétique tout ce qui l'échappait de la vie. Aux soirées de Madame Semaine, deux jeunes gens fréquentaient, qu'une tendre amitié avait comme associés dès l'enfance. L'un, déjeté sans être grand, non tant maigre qu'efflanqué, aux cheveux plus déteints que blonds, au nez fier, au regard timide, c'était Amédée Fleurissoir. L'autre, gras et courtaud, aux durs cheveux noirs plantés bas, portait par étrange habitude la tête constamment inclinée sur l'épaule gauche, la bouche ouverte et la main droite en avant tendue, j'ai des pains, Gaston, Blafafas. Le père d'Amédée était marbrier, entrepreneur de monuments funéraires et marchand de couronnes mortuaires. Gaston était le fils d'un important pharmacien. Pour étrange que cela puisse paraître, ce nom de Blafafas est très répandu dans les villages des contreforts pyrénéens, encore qu'écrit parfois de manière assez différente. C'est ainsi que dans le seul bourg de Sta, où l'appelait un examen, celui qui écrit ces lignes a pu voir un Blafafas, notaire, un Blafafas, coiffeur, un Blafafas, charcutier, qui, interrogé, ne se reconnaissent aucune origine commune et dont chacun considérait avec un certain mépris le nom au graphisme inélégant des deux autres. Mais ces remarques philologiques ne sauraient intéresser qu'une classe assez restreinte de lecteurs. Qu'eussent été Fleurissoir et Blafafas l'un sans l'autre? On a peine à l'imaginer. Dans les récréations du lycée, on les voyait toujours ensemble, brimés sans cesse, se consolant, se prêtant patience, renfort. On les nommait les Blafafoirs. Leur amitié semblait à chacun l'arche unique, l'oasis dans l'impitoyable désert de la vie. L'un ne goûtait pas une joie qu'il ne l'a voulu aussitôt partager, ou pour mieux dire, rien n'était joie pour l'un que ce qu'il goûtait avec l'autre. Médiocres élèves, malgré leur désarmante assiduité, et foncièrement réfractaires à toute espèce de culture, les Blafafoirs seraient restés toujours les derniers de leur classe sans l'assistance d'Eudox Lévichon, qui, moyennant de petites redevances, corrigeait, faisait même leurs devoirs. Ce Lévichon était le fils cadet d'un des principaux bijoutiers de la ville. 20 ans auparavant, peu de temps après son mariage avec la fille unique du bijoutier Cohen, au moment où, par suite de la prospérité de ses affaires, il quittait le bas quartier de la ville pour aller s'établir non loin du casino, le bijoutier Albert Lévy avait jugé désirable de réunir et d'agglutiner les deux noms, comme il réunissait les deux maisons. Blafafas était endurant, mais Fleurissoir de complexion délicate. Aux approches de la puberté, le faciès de Gaston s'obombra. On eût dit que la sève allait empoiler tout son corps. Cependant, l'épiderme plus susceptible d'Amédée se rebiffait, s'enflammait, boutonnait, comme si le poids lui fait des façons pour sortir. Blafafas père conseilla des dépuratifs, et chaque lundi Gaston apportait dans sa serviette une fiole de sirop antiscorbutique qu'il remettait en cachette à son ami. Ils usèrent également de pommade. Vers cette époque, Amédée prit son premier rhume, rhume qui, malgré l'amène climat de peau, ne céda point de tous les vers, et laissa derrière lui une fâcheuse délicatesse du côté des bronches. Ce fut pour Gaston l'occasion de nouveaux soins. Il comblait son ami de réglisse, de pâtes aux jujubes, aux lichens, et de pastilles pectorales à base d'eucalyptus que le père Blafafas fabriquait lui-même, d'après la recette d'un vieux curé. Amédée, facilement catareux, dut se résigner à ne sortir jamais sans foulard. Amédée n'avait d'autre ambition que de succéder à son père. Gaston, cependant, malgré son apparence indolente, ne manquait pas d'initiative. Dès le lycée, il s'ingéniait à de menues inventions, à vrai dire plutôt récréatives. Une trappe à mouches, une pèse-bille, un verrou de sûreté pour son pupitre, qui du reste ne contenait pas plus de secrets que son cœur. Si innocentes que fussent les premières applications de son industrie, elles devaient néanmoins l'amener à des recherches plus sérieuses, qui l'occupèrent dans la suite et dont le premier résultat fut l'invention de cette pipe fumivore hygiénique pour fumeurs délicats de la poitrine et autres, qui resta longtemps exposée à la devanture du pharmacien. Amédée Fleurissoir et Gaston Blafafas s'éprirent ensemble d'arnica. C'était fatal. Chose admirable, cette naissante passion qu'aussitôt l'un à l'autre ils s'avouèrent, loin de les diviser, ne fit que resserrer leur couture. Et, certes, arnica ne leur donna d'abord à l'un non plus qu'à l'autre de grands motifs de jalousie. Aucun d'eux du reste ne s'était déclaré, et jamais Arnica n'eût été supposé leur flamme, malgré le tremblement de leur voix, lorsque, à ces petites soirées du dimanche chez Madame Semaine dont ils étaient les familiers, elle leur offrait le sirop, la verveine ou la camomille. Et tous deux, s'en retournant le soir, célébraient sa décence et sa grâce, s'inquiétaient de sa pâleur, s'enhardissaient. Ils convinrent de se déclarer l'un et l'autre le même soir, ensemble, puis de s'abandonner à son choix. Arnica, toute neuve devant l'amour, remercia le ciel dans la surprise et la simplicité de son cœur. Elle pria les deux soupirants de lui laisser le temps de réfléchir. À vrai dire, elle ne penchait non plus vers l'un que vers l'autre, et ne s'intéressait à eux que parce que eux s'intéressaient à elle, alors qu'elle avait résigné l'espoir d'intéresser jamais personne. 6 semaines durant, perplexe de plus en plus, elle s'enivra doucement des hommages de ses prétendants parallèles. Et tandis que dans leurs promenades nocturnes, supputant mutuellement leurs progrès, les blafafoires se racontaient longuement l'un à l'autre, sans détour, les moindres mots, les regards, les sourires dont elle les avait gratifiés, Arnica, retirée dans sa chambre, écrivait sur des bouts de papier qu'elle brûlait soigneusement ensuite à la flamme de sa bougie et répétait inlassablement tour à tour « Arnica blafafas ? Arnica fleurissoir ?» incapable de décider entre l'atrocité de ces deux noms. Puis, brusquement, certains jours de sauterie, elle avait choisi Fleurissoir. Amédée ne venait-il pas de l'appeler Arnica en accentuant la pénultième de son nom d'une manière qui lui parut italienne? Inconsidérément du reste et sans doute entraîné par le piano de Mademoiselle Semaine qui rythmait l'atmosphère en ce moment. Et ce nom d'Arnica, son propre nom, aussitôt lui était apparu riche d'une musique imprévue, capable lui aussi d'exprimer poésie, amour. Ils étaient tous deux seuls dans un petit parloir à côté du salon, et si près l'un de l'autre que lorsqu'Arnica, défaillante, laissa pencher sa tête lourde de reconnaissance, son front toucha l'épaule d'Amédée qui, très grave, prit alors la main d'Arnica et lui baisa le bout des doigts. Quand, au retour, Amédée annonça son bonheur à son ami, Gaston, contre son habitude, ne dit rien, et quand ils passèrent devant une lanterne, il parut à Fleurissoir qu'il pleurait. Si grande que fût la naïveté d'Amédée, pouvait-il vraiment supposer que son ami partageait jusqu'à ce dernier point son bonheur? Tout décontenancé, tout penaud, il prit Blafafas dans ses bras, la rue était déserte, et lui jura que pour grand que fût son amour, son amitié l'emportait de beaucoup encore, qu'il n'entendait pas que par son mariage elle fût en rien diminuée, et qu'enfin, plutôt que de sentir Blafafas souffrant de quelque jalousie, il était prêt à lui promettre sur son bonheur de ne jamais user de ses droits conjugaux. Ni Blafafas ni Fleurissoir n'étaient de tempérament bien fougueux. Pourtant Gaston, que sa virilité occupait un peu davantage, se tut et laissa promettre Amédée. Peu de temps après le mariage d'Amédée, Gaston, qui pour se consoler s'était plongé dans le travail, découvrit le carton plastique. Cette invention, qui d'abord n'avait l'air de rien, eut pour premier résultat de revigorer l'amitié quelque peu retombée de Lévichon pour les Blafafoirs. Eudox Lévichon pressentit aussitôt le parti que la statuaire religieuse pourrait tirer de cette nouvelle matière, qu'il baptisa d'abord avec un remarquable sentiment des contingences, carton romain. La maison Blafafas, Fleurissoir et Lévichon fut fondée. Le carton romain plastique annonçait le catalogue d'inventions relativement récentes, de fabrication spéciale, dont la maison Blafafas, Fleurissoir et Lévichon garde le secret, remplace fort avantageusement le carton pierre, le papier stuc et autres compositions analogues dont l'usage n'a que trop bien établi toute la défectuosité, suivait les descriptions des différents modèles. L'affaire s'élançait avec un capital de 60 000 francs déclarés, sur lesquels les Blafafoirs s'inscrivaient à eux deux modestement pour 10 000. Lévichon fournissait généreusement les 50 autres, n'ayant point supporté que ses deux amis s'obérassent. Il est vrai que sur ces 50 000 francs, 40 étaient prêtés par Fleurissoir, prélevés sur la dot d'Arnica, remboursables en 10 ans, avec un intérêt cumulatif de 4,5%, ce qui était plus qu'Arnica n'avait jamais espéré, et ce qui mettait la petite fortune d'Amédée à l'abri des grands risques que cette entreprise ne pouvait manquer de courir. Les Blafafoirs, par contre, apportaient l'appui de leurs relations et de celles des Baralioul, c'est-à-dire, après que le carton romain eut fait ses preuves, la protection de mains membres influents du clergé. Ceux-ci, en plus de quelques importantes commandes, persuadèrent maintes petites paroisses de s'adresser à la maison FBL pour répondre aux besoins grandissants des fidèles. L'éducation artistique de plus en plus perfectionnée, exigeant des œuvres plus exquises que celles dont la fruste foi des ancêtres s'était jusqu'à présent contentée. À cet effet, quelques artistes, de mérite reconnus par l'Église, enrôlés dans l'œuvre du carton romain, obtinrent de voir enfin leurs œuvres acceptées par le jury du salon. Laissant à Pau les blafafoires, Lévichon s'établit à Paris, où, comme il avait de l'entregent, la maison avait bientôt pris une extension considérable. Que la comtesse Valentine de Saint-Prix chercha, à travers Arnica, à intéresser la maison Blafafas et compagnie à la secrète cause de la délivrance du pape, quoi de plus naturel? Et qu'elle eut confiance dans la grande piété des fleurissoirs pour rentrer dans une partie de son avance. Par malheur, les Blafafoires, en raison de la minime somme engagée par eux au début de l'entreprise, ne touchaient que très peu, 2/12 sur les revenus avoués et absolument rien sur les autres. C'est ce que la comtesse ignorait, Arnica ayant, de même qu'Amédée, grande pudeur à l'endroit du porte-monnaie.